France Inter.
La Commission européenne a fait le choix unilatéral d'appliquer provisoirement l'accord avec le Mercosur. Pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Et pour le Parlement européen, c'est une mauvaise manière.
Relativement calme jusqu'ici ce salon de l'agriculture, presque un peu terne. Ce n'était pas non plus la foule des grands jours, même si moutons et cochons ont bien tenté de jouer les vedettes en remplacement des vaches absentes cette année. Mais hier, l'ambiance a subitement changé. 11h35, sans attendre l'avis de la justice européenne, Ursula von der Leyen annonce que l'accord Europe-Mercosur s'appliquera de manière provisoire. 13h30, réaction d'Emmanuel Macron que vous entendiez à l'instant. Et à 15h, manifestation des syndicats agricoles porte de Versailles. Démocratie piétinée, Europe abîmée, disent-ils. Les voilà victimes des soubresauts géopolitiques mondiaux. Donald Trump relance la pression sur les droits de douane. Conséquence, la Commission européenne cherche à tout prix et le plus vite possible à sécuriser d'autres partenariats commerciaux plus au sud. Seulement, malgré toutes les garanties apportées, les agriculteurs français, eux, ne font pas confiance à l'UE pour les défendre. Un coup dur donc pour la ferme France, qui plus est, à quelques heures du coup près des négociations commerciales, et oui, c'est ce soir minuit, que doivent s'achever des semaines de deals tarifaires tendus, électriques. D'un côté, les fournisseurs agricoles qui jouent leurs revenus de l'année, de l'autre, la grande distribution qui veille sur le portefeuille des ménages, mais aussi sur ses marges. Les entreprises agricoles dénoncent le contournement des lois Egalim par les grandes surfaces et des méthodes de plus en plus agressives. Et si c'était tout ce système de négociations annuelles qu'il fallait repenser. Le gouvernement parle de pratiques à bout de souffle, réfléchit à des contrats tarifaires sur plus long terme pour sécuriser les fournisseurs. C'est loin d'être fait. Sur ce sujet, comme sur le Mercosur, trop de mauvaises surprises et de mauvaises manières alimentent la défiance et tous les dangers qui l'accompagnent.
On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière sur France Inter.
Bienvenue dans le Mag Écho de France Inter. On est ensemble jusqu'à 10h. On vous raconte les hauts, les bas, les vents contraires et les coulisses de l'économie. D'autres coulisses, celles de cette émission. Vous y trouverez Valentin Pérez, Céline Hilla à la réalisation, Noé Chabanne à la technique ce matin. Louise Cognard était notre chasseuse de son et Raphaël Rousseau au mixage. L'invité de ce samedi 28 février est en charge d'un chantier de longue haleine, mission compliquée mais stratégique, permettre aux industriels français de ne plus dépendre à 90% de certains composants fabriqués en Chine, composants dans lesquels on trouve des terres rares et sans lesquelles on ne fait ni batterie électrique, ni panneaux solaires, ni éoliennes, ni avions militaires, ni voitures, ça fait quand même beaucoup. La France doit-elle redevenir la puissance minière? Quelle était la minière qu'elle était dans les années 90, interview du délégué interministériel aux approvisionnements en métaux et minerais critiques, Benjamin Galzo, ce sera vers 9h40. Une course contre la montre, pas seulement franco-française. Hein. Nous irons dans les entrailles d'une ancienne mine italienne qui pourrait rouvrir prochainement. Et ça pose beaucoup de questions. Reportage à suivre en Lombardie de Gian Bergaoui. On fera aussi bien sûr notre petit tour en librairie. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous.
L'écho à la page. Comme chaque dernier samedi du mois, alors qu'est-ce que vous avez lu pour nous ?
Eh ben, de quoi voyager. On va aller faire un petit tour à New York pour rencontrer le nouveau maire. Et puis un petit tour dans le temps aussi, vous verrez, la France des années 30.
On se retrouve juste avant 10h. Mais avant tout ça, l'actu écho de la semaine digérée et mise en perspective autour d'un café. Aujourd'hui, de chaque côté de la table, Leïla Aboud du Financial Times. Salut Leïla.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Et Eric Ayer du département analyse et prévision de l'OFCE, le centre de recherche économique de Sciences Po. Hello Eric.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Alors ces derniers jours, une publication américaine sur les conséquences potentiellement dramatiques de l'intelligence artificielle sur l'emploi a fait beaucoup réagir. C'est un travail de scénario fiction, hein, plus qu'une véritable étude basée sur l'évolution de données réelles. Mais la vision cauchemardesque décrite avec des licenciements par millions a tout de même réussi à faire quasiment trembler Wall Street. Alors bientôt la jobs apocalypse avec l'IA, doit-on se préparer à un monde de métiers augmenté ou au contraire massivement supprimé? C'est notre débat du jour.
graphiste, maquettiste, rédacteur, traducteur, comptable, caissier. Des dizaines de métiers sont déjà menacés de disparition par l'IA.
Depuis quelque temps,
Éric Sadin, philosophe et essayiste.
Est apparue la notion de Jobs Apocalypse, qui vient de la Silicon Valley. En réalité, ça s'étend à la Terre entière, qui regarde des foules de licenciements et un phénomène plus insidieux, des moindres embauches relativement au col blanc.
Il y aura beaucoup de métiers où une grande partie de ce que signifie exercer ce métier va changer.
Sam Altman, PDG d'OpenAI.
Cela libérera des personnes pour qu'elles fassent plus de choses et d'autres activités. Certains emplois disparaîtront entièrement pour être remplacés par ces nouveaux métiers.
Quelque chose qui me semble évident et qui n'est pas discuté par les politiciens, malheureusement, ça va être beaucoup plus de gens qui vont perdre leur job que de gens qui vont s'enrichir.
Yoshua Benjiu, chercheur en intelligence artificielle, professeur à l'Université de Montréal.
Et la seule solution qui est en accord avec les valeurs démocratiques, c'est de redistribuer cette richesse.
Bien sûr, il y aura des destructions d'emplois liées à l'intelligence artificielle, mais il y en aura aussi quantité d'autres qui seront,
Lesquelles?
Hier, j'étais à un panel où la question a été posée de savoir si à l'avenir, les infirmières ne seraient pas plus payées que les médecins.
Yann Le Palec, président de S&P.
Les diagnostics que font les médecins aujourd'hui peuvent être, d'après ce que j'ai entendu, à 90% automatisés et pris en charge par l'intelligence artificielle, alors que le contact d'humain à humain, les valeurs de compassion, d'attention à la personne, ne pourront jamais être remplacées par les modèles.
My guess is...
Elon Musk, directeur général de X et de SpaceX.
Mon opinion est que sur le long terme, si l'on continue à améliorer l'IA et la robotique, ce qui semble probable, l'argent sera inutile dans le futur. Dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Et pour moi, ça c'est du long terme. Je pense que le travail sera optionnel.
Voilà, tout ça n'est pas du tout inquiétant, n'est-ce pas? Et j'ajoute l'annonce hier par une société de paiement en ligne bloque du licenciement de 40% de ses effectifs, soit potentiellement 4000 salariés. Alors, Leïla Aboud, on démarre avec vous. Vous nous en dites peut-être sur cette publication qui a fait énormément réagir cette semaine. De quoi s'agit-il exactement?
Ça a été écrit par Citrini Research. C'est un éditeur indépendant d'analyse de marché. En gros, il n'est pas très grand. Il a autour de 120 000 abonnés. Le fondateur, c'est un certain James Voegelin. Il a 33 ans. Et c'est un espèce de scénario, comme vous dites, fiction, où ils imaginent que c'est une lettre aux investisseurs, un macro mémo, qui est écrit en 2028. Et la première ligne, c'est bien ce qui suit, c'est un scénario et pas une prédiction. Mais ensuite, ils vont se faire plaisir à faire peur à tout le monde, un peu comme raconte dans le mm-hmm. le reportage. Et si je dois résumer ça, ils décrivent une première étape où les outils deviennent des agents indépendants, ils commencent à faire les emplois, enfin faire des tâches au travail tout seul. Et là, franchement, ça a déjà commencé. On le voit déjà dans certaines filières. Mais étape 2, ça devient de plus en plus puissant. Et les agents commencent à remplacer les travailleurs. Ou, comme dit dans le reportage, ils rendent certaines embauches inutiles. Les marges des entreprises qui font ça explosent parce qu'ils ont des moindres coûts sur la main-d'œuvre. Ensuite, ça les incite de investir plus dans l'IA et ça déclenche ce que les écrivains, les personnes qui ont écrit ce rapport, une spirale négative sans frein naturel, entre guillemets. C'est pas très agréable, si c'est vrai. Et quatrième étape.
Ils parlent même de pandémie économique.
Oui,
c'est ça.
Oui, ils utilisent une autre phrase, ce qui est l'IA sera une pandémie économique plutôt que la panacée. Voilà, dernière étape qu'ils décrivent, c'est que l'économie entière s'effondre, car quand il y a moins de personnes au travail, il y a moins de pouvoir d'achat. Et quand même, les États-Unis, bon, on va prendre ça comme base, la plus grande partie du PIB vient de la consommation. Et ensuite, ils ont une autre phrase que je trouvais très marrante, où ils disent nous aurions probablement pu nous en rendre compte plus tôt si nous avions simplement demandé combien d'argent les machines dépensent dans les biens, indice c'est zéro. Bon, vous voyez le ton, c'est assez dans l'ironie, etc. Et voilà, enfin, même si ce n'était pas une prédiction, on a bien vu des conséquences peut-être passagères sur la bourse. Il y avait IBM, l'action IBM qui est tombée de 13% le lendemain, c'est quand même pas rien. Salesforce, une entreprise qui fait du logiciel pour les business, moins 5. Et même les cartes de paiement Visa et Mastercard ont baissé de 5 et 6% dans ce scénario que la consommation va être moindre. Tout ça est marrant, je trouve, mais ça montre aussi des vrais débats, des fissures dans à la fois la communauté des investisseurs et aussi les
marrant
économistes.
Parce que vous diriez que c'est pas crédible, c'est pour ça que vous allez jusque là.
Je pense que personne ne sait. Ils ont dit que c'est 2028, c'est ouais. 2 ans. Personne ne sait si tout cela va se passer dans 2 ans. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire l'IA, ça va changer plein de choses dans le travail et dans les sociétés. Est-ce que c'est à l'horizon de 2 ans, 5 ans? Est-ce que c'est super grave comme choc, ou est-ce que ça va être quelque chose comme d'autres vagues de technologies nouvelles, où c'est un tout petit peu plus mitigé, c'est-à-dire ça se passe, mais lentement, avec une disruption qui existe, mais qui ne va pas être un apocalypse comme on raconte ici. Voilà, ça mise en ébullition plein de monde, à la fois sur la bourse, les investisseurs et les économistes et les académiques. Et voilà,
relance un débat, mais un débat qui existe déjà, un débat académique, ça fait quelques années quand même qu'il y a des visions qui s'affrontent différentes sur les conséquences sur l'emploi et sur la croissance de l'arrivée de l'IA. On a d'ailleurs 2 prix Nobel récents qui disent pas du tout la même chose. Peut-être expliquez-nous, Eric Heyer.
Oui, non, mais c'est vrai. Alors, il y a toujours eu un débat académique pour savoir est-ce qu'il y a un job apocalypse ou pas. Hein. Alors donc là je vais prendre le costume de Christian Chavagneux et donc proposer un livre. Vraiment, si vous voulez tout savoir sur le débat académique là-dessus, je vous conseille un petit livre, IA et emploi, écrit par Grégory Verdugo aux presses de Sciences Po. C'est 120 pages et vous allez tout comprendre. Donc globalement, oui, depuis le 19e siècle, David Ricardo, Keynes, Léontief ont toujours dit attention, le progrès technique, ça va effectivement détruire énormément d'emplois et tout ça, ça s'est pas réellement produit. Alors là, ce qui est intéressant dans cette note, c'est que en fait, il donne une idée un peu originale qui serait qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une insuffisance de l'intelligence humaine. Et donc, il y a des personnes qui captent cette rareté et donc c'est une rente et c'est les emplois très qualifiés qui finalement s'enrichissent parce qu'il y a une insuffisance de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle va faire une abondance d'intelligence et donc ils vont perdre leur rente. C'est ça l'idée originale. Et donc, et après, bon, d'abord ça on pourra le critiquer, mais après le débat et tout le raisonnement macroéconomique ne tient pas la route. Donc pour eux, c'est le haut de la distribution et il n'y a pas beaucoup de pertes d'emplois.
Oui, c'est l'école blanche.
Et oui, c'est l'école très blanche. Hein, c'est-à-dire que c'est les 10% les plus riches qui vont perdre cette rente, qui vont perdre leurs revenus et puisqu'ils font 50% de la consommation, d'un coup, il y a la consommation disparaît, donc il y a une récession et donc les autres sont entraînés non pas par l'IA, la destruction d'emplois, mais parce qu'il y a une chute de la consommation et de la demande. Et après, même, ils vont encore plus loin et disent, et en plus, il y a une crise financière parce que là, c'est pas la crise des subprimes, c'est la crise des primes, c'est-à-dire que les primes qui sont aussi endettés, ils perdent, donc crise hypothécaire. Et donc, ils décrivent vraiment tout le scénario le plus noir possible. À chaque fois, l'Académie pourrait arrêter le scénario. Déjà, est-ce qu'il y a, et ça, c'est le débat d'Aaron Acemoglou,
David Dottor, etc. Est-ce qu'on aura plus de destruction ou plus de création d'emplois? C'est la grande question.
C'est la grande question. Alors là, Leïla a bien dit, on n'en sait vraiment fichtre rien. On s'est toujours trompé. Donc, il faut être extrêmement prudent. Mais effectivement, déjà, à partir du principe que aujourd'hui il y aurait une substitution parfaite entre la machine et l'homme, là, les études académiques, il n'y a aucun académique qui dit oui. Vous voyez, il dit effectivement, les professions, c'est beaucoup de tâches. Il y a quelques tâches peut-être qui sont complètement substituables, mais une profession qui disparaîtrait à cause de l'IA, allez, c'est quasiment improbable. Et vous voyez, là, il y a même...
Moi, je ne suis pas d'accord, mais allez-y.
Oui, mais là, il y a, d'ailleurs, pour le dire, vous voyez, il y a même, allez, le père de l'IA, qui est le prix Nobel 2024, pas d'économie, mais de physique. Vous voyez, Geoffrey Hinton, qui a dit en 2016, vous voyez, alors là, c'est sûr, il y a une profession qui va disparaître, donc il faut arrêter de les former, ce sont les radiologues. Alors là, c'est sûr, les radiologues, dans 5 ans, je vous promets qu'il n'y en aura plus un. On est 10 ans après, la profession des radiologues, au lieu de baisser, a augmenté de 17%. Il y a une pénurie de radiologues et globalement, c'est eux qui payent le plus.
Donc vous voyez, ces professions,
il faut avoir une grille de lecture plus compliquée, plus nuancée sur l'impact sur l'emploi. Il y a des travailleurs où l'IA va les rendre plus productifs parce qu'ils augmentent un peu leur intelligence et leur capacité de travailler vite. Modestement, à mon niveau, je pense que moi, je fais ça en tant que journaliste. J'utilise ça pour plein de tâches qui étaient un peu ingrats avant. Mais il y a une ligne rouge, je ne vais pas laisser le robot écrire mes papiers, parce que je pense que j'apporte quelque chose dans mon propre analyse qu'il n'est pas capable de faire. Après, ils ont certaines qui vont être remplacées, hein, je suis désolée, mais il y a des... Et en particulier, c'est des couches un peu junior de job, par exemple, des cabinets d'avocats ou de consulting qui n'ont pas besoin de chaque année d'embaucher une vague de personnes qui sortent de l'université, parce que les tâches un peu au premier niveau peut être fait par d'autres personnes.
Oui,
maintenant.
Mais vous mélangez tâches et professions.
Oui, vous n'avez pas besoin de tous ces jeunes si quelqu'un de niveau moyen
fois,
ou senior.
Vous n'avez pas besoin des radiologues et c'est trouvé qu'il y en avait de plus en plus.
Non, je pense que c'est pas la même chose.
Ah oui, c'est ce que vous pensez, mais il ne faut pas l'affirmer.
Troisième chose, je dirais, sur la grille de lecture, il va y avoir des personnes qui deviennent, grosso modo, des superviseurs, des managers de l'IA. C'est-à-dire, ils sont juste là un peu à guider tous ces outils et ils deviennent presque managers d'équipe des robots.
Et tout ça, c'est nouveau métier.
Ou c'est des personnes qui sont déjà dans une entreprise, mais qui transforment ce qu'ils font. Alors je pense qu'il faut être quand même un tout petit peu plus nuancé que tout le monde va faire leur job et tout le monde est... Enfin, il y a un apocalypse devant nous.
Le sujet quand même des gains de compétitivité. Je voudrais qu'on y revienne, parce que de productivité. Parce que ça fait des années qu'on annonce, que les entreprises attendent qu'elles arrivent. En vérité, on ne les voit pas complètement venir.
Mais ça non plus, ce n'est pas nouveau. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Donc en 1985, Robert Solow disait, mais on est dans l'ère des ordinateurs, il y a des ordinateurs partout et pourtant il n'y a pas de productivité. D'accord ? Et donc il y a toujours un temps. C'est pour ça que l'idée de dire qu'en 2028, c'est sûr que le choc sera là, mais non, ça met du temps. Et là, donc là,
mais depuis... ils vont venir.
Mais ils vont venir. Mmh. Et surtout.
Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette richesse?
Et ben voilà. C'est un gros sujet. Et ben voilà. Donc c'est ça le débat. Donc là, vous avez un économiste, Eric Brynjolfsson, qui dit, il y a une courbe en J. Donc attention, dans un premier temps, ça peut effectivement détruire. Et après, la productivité arrive. Et donc cette productivité.
Et là, elle monte très, très vite, très haut.
Monter très vite, très haut. Et cette productivité, forcément, il y aura des effets macroéconomiques. Donc il y aura de la richesse créée. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse? Normalement, ça fait baisser les prix. D'accord? Quand vous avez beaucoup de productivité. Donc allez-vous redonner des gains de pouvoir d'achat? Parce que les prix ont baissé, donc la demande va se maintenir et donc le scénario catastrophe qui a été décrit alors n'existe pas. Ou alors ça fait beaucoup de richesse pour les personnes, donc des nouveaux métiers, ça c'est plutôt Philippe Aguillon en disant, allez, c'est de l'innovation et donc globalement ça va faire la destruction créatrice et de la croissance endogène, donc allez, ça va juste faire des transformations. Et après vous avez Daron Acemoglu qui est un autre prix Nobel qui dit, oui mais attention, le scénario décrit là peut-être par Citrini est peut-être juste, d'accord, mais c'est les institutions qui sont indispensables, il faut mettre en place les institutions pour justement guider cette IA vers de la complémentarité plus que de la substitution. Et si on n'y arrive pas, il faut mettre de la fiscalité, de la redistribution. Et avec ça, le scénario catastrophe n'existe pas. Donc ça veut dire que le scénario catastrophe existe que si finalement les institutions sont passives.
Bon, les institutions, on n'a pas un très très bon record qui réagissent à des changements technologiques très rapidement. Je dirais aussi un autre grand gagnant de tout ça, c'est les personnes qui sont propriétaires de toutes ces entreprises qui amène ces nouvelles technologies. OpenAI, Google, Microsoft. Vous pouvez tout à fait possiblement avoir une vraie concentration. On parle des milliards et des milliards et peut-être plus de richesses qui va être captée par un certain nombre d'entreprises. Que le risque est que ça devienne encore plus un cartel ou un secteur où c'est plus compétitif, plus autant aussi compétitif qu'avant. Voilà, ça c'est une autre scénario qui est très possible à mon avis.
Donc une masse de richesses captées par très peu de grands acteurs.
Oui, oui. Et les
potentiellement la fin du travail, si on imagine ce bon alors on a vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais imaginons fin du travail, toute cette richesse. Certains imaginent peut-être la question. Enfin, on pose sur la table la question d'un revenu universel. Ça a été mentionné.
C'est ça, c'est-à-dire que globalement, soit vous croyez que les institutions vont guider l'IA vers de la complémentarité, donc vous allez avoir la productivité et donc tout ira bien, etc. Soit vous dites non, finalement on n'y arrivera pas, ça sera de l'automatisation et donc il y aura des effets d'éviction. Et donc au pire, c'est votre scénario, c'est-à-dire que allez, il y a quasiment plus d'emplois, c'est trop concentré. Et donc effectivement, là les institutions seront là pour redistribuer, pour pas qu'il y ait trop d'inégalités.
Moi je dirais juste
qu'on
se calme tous. Et qu'on attend un peu. Je pense que c'est pas la peine pour les travailleurs de s'inquiéter d'un apocalypse qui vont les tomber dessus. Tout ça va prendre un peu de temps. Et on espère que les personnes au travail, les entreprises, on aura un peu de temps pour ajuster à cette nouvelle réalité.
Allez, on va se calmer un petit peu. Leïla Abboud du Financial Times et Eric Heyer de l'OFCE. Ils ont fait le débat éco.
Real Decreto Ley para la ampliación
de derechos de los trabajadores.
Unemployment and lower job
creation. Mas não conhece a economia.
L'économie, comme elle se vit ailleurs. Nous partons au Danemark.
Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved folketingsvalget, der afholdes den 24. marts 2026.
Le Danemark, où la première ministre Mette Frederiksen, qui aurait dû en principe aller au bout de son mandat en octobre prochain, a annoncé jeudi qu'elle convoquait des élections législatives anticipées. « J'ai soumis, dit-elle, cette décision à Sa Majesté le Roi. Que je reste votre première ministre dépend de la force du mandat que vous donnerez au parti, mon parti, le Parti social-démocrate. » Bonjour Ottilia Ferret.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante dans la région en Suède. Mette Frederiksen appelle les Danois donc à retourner aux urnes, portée paradoxalement par les tensions géopolitiques autour du Groenland.
Si la première ministre danoise a convoqué des élections anticipées, c'est surtout pour renforcer son pouvoir après la gigacrise, disons-le, provoquée par Donald Trump et ses incessantes convoitises sur le Groenland, territoire autonome danois. Alors pour calmer un petit peu les velléités expansionnistes du président américain, Copenhague a prévu d'investir 12 milliards d'euros dans la sécurité dans l'Arctique. En se montrant très ferme face à Washington, Mette Frederiksen est d'ailleurs bien remontée en popularité, de quoi lui redonner espoir de briguer ce troisième mandat. Dans ce contexte de forte tension, c'est donc la défense et la sécurité qu'elle met au cœur de sa campagne électorale. C'est, je cite, le fondement même de la politique danoise pour de très nombreuses années. L'objectif en matière de défense est clair, dépasser les 3% du PIB en 2026 et poursuivre le réarmement du royaume face aux menaces venues de l'Est mais aussi désormais de l'Ouest.
Et ça va être rapide, hein, élection le 24 mars prochain. Que dit le reste de son programme ?
Alors oui, ça va aller très vite. Dans le top de sa liste des priorités, on retrouve sans surprise le souhait de conserver et même de durcir encore sa politique migratoire déjà très stricte. Là-dessus, elle est on ne peut plus ferme, hein, mais c'est aussi une manière de contrer la poussée de l'extrême droite. Et puis, pour réduire les inégalités et financer des services publics prioritaires, comme les écoles publiques par exemple, la social-démocrate propose de réintroduire un impôt sur la fortune. Et enfin, elle promet aussi des réponse aux pressions sur le coût de la vie et un allègement de la taxe foncière pour les ménages modestes. En tout cas, pour Mette Frederiksen à la tête d'un gouvernement de coalition centriste, ça semble plutôt bien parti. Dans les sondages, son parti reste pour l'instant en tête des intentions de vote.
Ottilia Ferret avec nous de Stockholm. Il est 9h35 sur France Inter. Des terres rares, il y en a beaucoup dans les sous-sols du Groenland dont on parlait à l'instant. Et bien justement, c'est justement notre sujet ce matin. Dans moins de 10 minutes, question à Benjamin Galzo qui dirige une toute petite équipe rattachée à Matignon. Petite équipe en charge de l'enjeu de l'approvisionnement des industriels tricolores en minerais et métaux critiques. Comment retrouver notre autonomie alors que Pékin a fait de ces matériaux une arme diplomatique et jusqu'ici plutôt efficace? Est-ce que petit à petit on arrive à diversifier les sources d'approvisionnement et à raffiner aussi sur notre propre sol? Eh bien, posons la question pour commencer à nos voisins italiens. Comme la France, l'Italie investit aujourd'hui dans la recherche géologique pour remettre sur pied une filière d'extraction. Nous voici de l'autre côté des Alpes, dans les montagnes du Val del Risso en Lombardie. Une ancienne mine de zinc, de plomb et d'argent fermée au début des années 80 suscite la convoitise à Gorno, village de 1500 habitants. Allez, on rentre avec notre reporter Gian Bergawi et son guide qui est aussi conseiller municipal dans les entrailles de la montagne. Je vous conseille de mettre une petite laine. Il fait frisquet.
Confia.
On doit mettre un petit casque, c'est ça?
Si.
Oui, c'est ça.
Scusa, Vai, così, comodo. Va bene?
C'est bien serré. Va bene.
Mi chiamo Scolari Fabrizio.
Je m'appelle Scolari Fabrizio et je suis le coordinateur de l'écomusée des mines de Gorno. Je n'étais pas mineur, mais j'ai été employé pendant 43 ans dans l'usine de transformation du minerai en métal. Voici l'entrée.
On a mis nos casques, on a pris la lampe de mineur. On entre dans la galerie, il fait tout de suite plus frais.
Ici, nous avons le microclimat de la mine. Aujourd'hui, il fait 7 degrés. Le taux d'humidité est de 95%. En ce moment, nous avons 100 mètres de roche au-dessus de notre tête.
Alors, il faut faire attention. On marche sur les rails. On esquive un peu les anciens wagonnets.
Les minerais recherchés ici sont au nombre de 3. En altitude, on trouve surtout de la calamine, mais aussi la blende et la galène. À la fermeture de la mine, on estime qu'il y avait encore 5 millions de tonnes de minerais présents.
C'est toutes ces ressources qui intéressent aujourd'hui des entreprises étrangères. Il y a une entreprise australienne, Altamine, qui a déposé plusieurs demandes d'extraction. Qu'est-ce que vous en savez ici dans le village ?
Pour l'instant, ce que les Australiens ont proposé n'est pas très clair. On ne voit aucune activité. Ils sont pratiquement à l'arrêt. Et en plus, ces messieurs ont effectué des forages sans avoir obtenu les autorisations. À cause de cette faute, les autorités leur ont imposé une suspension. Mais c'est clair qu'un projet industriel de ce type pourrait créer des emplois. Beaucoup d'entre nous, en particulier les plus âgés, voient la mine d'un bon œil parce qu'elle nous a donné du travail, à tous. Mais bon, on a aussi 5 décharges de déchets miniers dans la vallée du Risseau, donc on voit aussi les répercussions négatives de la mine. Il faut tout mettre sur la table, le positif et le négatif, et voir comment ça pèse dans la balance.
Sur son site internet, la firme australienne présente Gorno comme le projet pilote de réouverture de mines en Italie. Mais pour l'instant, tout est en pause, le temps de réaliser une étude de l'impact environnemental. La question des métaux stratégiques, mais aussi des déchets miniers, du risque de pollution, de nuisance, est suivie de près par Legambiente, l'une des associations écologistes les plus importantes d'Italie. Je joins Andrea Minutolo, son responsable scientifique. Il regrette que la stratégie italienne repose principalement sur l'extraction minière.
L'Europe a donné pour mandat de garantir l'approvisionnement continental en matières premières critiques. Et l'Italie a immédiatement perçu cette initiative comme une nouvelle campagne pour devenir leader dans l'extraction et dans le domaine de ces matériaux. Mais comme toutes les belles choses, même si vous arrivez à extraire aujourd'hui sans impact grâce à la baguette magique de Mary Poppins, demain, après-demain, dans 5 ans, vous les aurez épuisés et vous vous retrouverez à nouveau à la case départ. On peut prévoir un plan pour extraire les matériaux là où ils sont nécessaires. Mais je m'attendais plutôt à un plan industriel qui ferait qu'on les récupère grâce à de l'économie circulaire, du recyclage des produits. Ça aurait été une opération beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sensée d'un point de vue industriel. Et pour l'environnement, ça aurait eu un impact moindre, notamment parce que cela aurait permis de créer des installations de recyclage. C'est une filière évidemment beaucoup plus durable et donc plus acceptable pour les territoires si elle est présentée comme une alternative à la seule extraction, à la seule exploitation minière.
L'Italie compte 3000 mines abandonnées, mais difficile de savoir combien pourraient être rapidement remises en état. Pour simplifier les procédures d'obtention de permis, le gouvernement de Giorgia Meloni a publié un décret à l'été 2024. En parallèle, il a lancé un plan national d'extraction avec une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour mettre à jour la carte des gisements du pays. Une phase de prospection dirigée par Fiorenzo Fumanti, géologue à l'ISPRA, l'Agence nationale pour l'environnement. Je le retrouve à Rome. Il m'accueille dans son bureau près du palais de la civilisation italienne.
En Italie, l'activité minière, celle des mines souterraines et des minerais métallifères, qui sont ceux dont on a actuellement besoin, a pris fin il y a environ 30 ans. Par conséquent, toutes les informations dont nous disposons sont assez anciennes et doivent être révisées, vérifiées à nouveau. Les recherches mettent en évidence qu'il existe une série de ressources minérales qui n'ont jamais été exploitées auparavant. Nous devons donc en déterminer les quantités pour déterminer s'il est rentable ou non de commencer leur exploitation.
Sur les 34 matières premières essentielles listées par la Commission européenne, combien sont présentes dans le sous-sol italien ?
16 éléments sont présents en Italie. certains dont nous sommes sûrs, d'autres qui doivent être encore vérifiés.
On peut peut-être regarder vos documents, vos images.
Alors, regardez là. C'est la mine de Silius, en Sardaigne, avec de la fluorite. Nous avons ici une mine qui, nous l'espérons, reprendra ses activités d'ici la fin de l'année et deviendra la plus grande mine d'Europe. Et puis là, il y a du graphite dans le Piémont, mais aussi en Calabre.
In Piemonte e anche qua in Calabria. Il tungsteno,
du tungstène en Sicile, comme en Sardaigne.
Anche poi in Sardegna. L'antimonio,
l'antimoine dans les collines métallifères de Toscane.
In Toscana.
Il le lithium et le bore, ici, dans le Latium. Nous avons également un permis de recherche dans le Val Tanaro.
Les recherches que vous êtes en train de faire, elles vont servir à de futurs investisseurs?
Yes. Si, si.
Oui, oui.
Cioè, non facciamo,
nous ne faisons pas d'extraction.
Noi facciamo solo esplorazione.
Nous faisons
di
uniquement
base.
De l'exploration de base.
Compagnia mineraria inizia.
Aucune compagnie minière ne se lance dans une opération sans savoir avec certitude ce qu'elle peut espérer trouver.
Perché fare.
Car ouvrir une mine souterraine signifie investir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et il faut avoir la certitude absolue d'un retour sur investissement. Nous, notre objectif est de dire, nous avons telle quantité, telle teneur en matériaux dans cette zone. Allez-y, enquêtez et voyez ensuite, vous, compagnie minière, si vous en êtes capable.
Jusqu'ici, ce sont principalement des entreprises australiennes et canadiennes qui déposent des permis d'exploration du sous-sol italien. Corrado Baccani est un spécialiste en matière stratégique. Il est aussi l'envoyé du gouvernement italien pour nouer de nouveaux partenariats à l'étranger. Il est d'ailleurs en ce moment en déplacement au Kenya. Pour lui, si l'Italie veut redevenir une puissance minière, c'est tout un écosystème qu'il faut recréer.
Pour moi, s'il faut commencer par quelque chose, il faut commencer par l'université et avoir des formations pour les jeunes et avoir plus de talents qui vont entreprendre ça, parce que je ne trouve pas. Les gens ne connaissent pas la thermodynamique, la physique, la chimie par hasard. Il faut l'étudier. Et puis, il faut voir... Une intégration du style district, comme en Italie, nous sommes spécialistes, non? Nous faisons les tomates et la sauce des tomates et la pizza. Hein? C'est un peu le concept. Hein?
Pour vous, il faut recréer tout un district minier, toute une filière de l'extraction minière?
Une filière d'extraction jusqu'à le produit final. Tout seul, on n'est pas capable. Peut-être avec, disons, la combinaison des compétences des différents pays européens, on peut faire, disons, une filière forte, mais... Il ne faut pas faire la compétition sur la base des modèles chinois, canadiens, australiens, etc. Il faut se refaire à notre industrie, refaire, disons, un nouveau concept. Et ça, c'est le grand effort qu'il faut faire. Sinon, on a perdu. On a perdu.
Défis et débats quand l'Italie se relance dans l'extraction minière.
Merci, hein.
C'était le reportage de Gian Bergaoui.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Claire Chaudière.
Et nous poursuivons la discussion avec vous, Benjamin Galzo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques. Vous nous avez rejoint dans ce studio. Alors, vous allez peut-être nous éclairer, nous expliquer que les minéraux critiques sont pas tous des terres rares. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse la photo avec vous, que vous nous décriviez la situation. Pourquoi c'est un enjeu industriel majeur aujourd'hui, en détenant plus de 60% de la production et plus de 90% du marché du raffinage des terres rares, la Chine pourrait, en quelques semaines, c'est ça, mettre à l'arrêt total des chaînes industrielles entières? C'est ce que vous dites aujourd'hui?
Alors, il y a en effet, sur un certain nombre de métaux critiques ou stratégiques, des dépendances qui sont très fortes. Et je dirais le cas des terres rares, ou en tout cas de certaines terres rares, en particulier celles qui servent dans la filière des aimants permanents, est l'un des plus préoccupants, voire je qualifierais de grave ou très grave.
C'est donc les éoliennes, les aimants permanents, c'est pas d'éoliennes par exemple.
Alors non, c'est beaucoup plus que ça. Vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un métal qui est, ces terres rares sont utilisées dans tous les aimants. Quatre terres rares sont utilisées dans les aimants. Et des aimants, vous en trouvez dans à peu près tout ce qui contient un moteur électrique ou un alternateur. Donc, vous voyez, ça concerne les éoliennes offshore, mais ça concerne les véhicules, qu'ils soient électriques ou thermiques. Donc, c'est très large. Et effectivement, il y a une dépendance aujourd'hui qui est très forte vis-à-vis de la Chine. Mais, et là j'insiste, c'est un marché de taille relativement modeste et les investissements à réaliser et qui ont commencé, je vais y revenir, en particulier en France, mais pas que, permettent d'entrevoir la possibilité de diversifier relativement rapidement. Donc, on a une situation qui est très problématique, mais en même temps, une stratégie et des coopérations...
Mais on arrête des filières entières ? Filière auto.
Oui, il y a des risques, en effet. Alors, il y a des possibilités de diversifier certain nombre d'approvisionnements, mais oui, compte tenu des montants, des taux de dépendance que vous avez indiqués, il y a des risques très importants pour les industriels.
Alors, votre action a deux jambes. D'un côté, vous relancez, en tout cas, vous accompagnez la relance de cette filière d'extraction et de raffinage en France. Et puis, on va peut-être commencer par là, il y a aussi la signature d'un certain nombre de partenariats avec des pays vers lesquels on peut s'approvisionner. Il y a déjà des partenariats qui ont été signés avec le Canada, l'Australie, la Malaisie, bientôt peut-être la Suède. Qu'est-ce qu'il y a dans ces accords ?
Alors, en effet, on a signé, le gouvernement a signé une vingtaine de partenariats à date. Le tout premier, d'ailleurs, était avec le Canada. Et d'ailleurs, en quittant votre studio, je pars au Canada pour la sixième fois depuis ma nomination pour discuter et faire avancer ce partenariat qui a déjà donné lieu à des contrats, notamment dans les terres rares, pour développer, pour aider au développement de certaines mines. Ces accords, ils ont généralement trois composantes. Une première qui est, je dirais, de gouvernement à gouvernement, qui notamment s'applique pour des gouvernements qui, dans des pays en développement, qui ont besoin d'aide technique pour mieux connaître leurs ressources, pour renforcer leur structure administrative, pour financer les projets, des projets industriels, c'est ça le cœur, aider à investir.
Et en échange, ils assurent
Des approvisionnements, voilà, les industriels français... opérateurs ou acheteurs ont, si je puis dire, des contrats d'approvisionnement en métaux.
Alors, il y a une question de temps pour relancer une filière d'extraction, mais aussi de recyclage, on va peut-être en parler, de métaux critiques. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes à pied d'œuvre. Vous dites, ça peut se faire en quelques années, quand des chercheurs disent, mais attendez, c'est un chantier énorme, la France était une puissance minière très importante, mais elle ne l'est plus du tout. Ça va prendre 10 ou 15 ans. Qui a raison ?
Alors, bon, d'abord, il faut bien comprendre, l'extraction n'est qu'une partie du sujet. On parle de chaîne de valeur. Un métal qui est utilisable par l'industrie se trouve pas dans une mine. Dans une mine, on trouve des minerais et ensuite on les transforme. Il peut y avoir 5, 6, 7 étapes de transformation. Dans un nombre très important de cas, d'ailleurs, ça n'est pas l'étape d'extraction où il y a le goulot d'étranglement qui est le plus important ou la prépondérance chinoise la plus importante. Donc, notre stratégie, et ça c'est très important, a été définie maintenant il y a 3 ans et elle est adaptée métal par métal en fonction d'une analyse précise de l'évolution des besoins, de l'offre et de l'endroit dans la chaîne de valeur où il y a des goulots d'étranglement. Donc je vais prendre des exemples parce que et des compétences que l'on a et des ressources que l'on a. Si je prends les terres rares pour aimants permanents, la France est un pays qui a des compétences extraordinaires en raffinage des terres rares. D'ailleurs, il y a une usine depuis 1948 à La Rochelle qui raffine des terres rares. Et donc on a repositionner avec le groupe Solvay cette usine sur les terres rares pour aimants permanents, et ils peuvent produire jusqu'à 4000 tonnes d'oxyde, c'est-à-dire finalement le produit qui va être ensuite utilisé pour faire les aimants. On construit une deuxième usine à Lac, 800 tonnes de terres rares lourdes à côté de Pau, ça représente 20% de la capacité mondiale. Ça a été évoqué dans le reportage, les questions de recyclage, il y a une ligne de recyclage d'aimants, deux lignes de recyclage d'aimants, une qui existe déjà et une qui est en début d'opération. Donc, voyez, on se positionne là où on a des compétences. Et on a une compétence en raffinage et en chimie des terres rares, une compétence unique au niveau mondial. Et cette compétence, on la met là aussi en coopération internationale. L'usine, par exemple, à Lac, elle est financée, elle est cofinancée avec le Japon. Parce que le Japon est un très important producteur d'aimants. Donc, vous voyez. Oui. Et pardon, vous, en revanche, pour l'extraction, je termine. Allez-y. Pour l'extraction, parce que c'est important de bien voir. Donc, raffinage, recyclage, ça, on peut faire chez nous. L'extraction, on n'a pas, à date, identifié de gisements de terres rares de qualité. Parce qu'il y a des gisements de terres rares, mais pas forcément avec les bonnes concentrations. En revanche, nos partenariats internationaux servent. J'ai cité le Canada, la Malaisie. J'étais il y a 15 jours en Malaisie. En Malaisie, il y a un contrat important d'approvisionnement en terres rares et le développement d'une mine en Malaisie. J'ajoute le Brésil, j'ajoute l'Australie, qui sont des pays, ou le Vietnam, qui sont des pays qui ont énormément de terres rares. Donc, voyez, la stratégie, c'est portefeuille d'approvisionnement diversifié. La diversification est le mot-clé. Et développement à l'endroit où on a des compétences.
Et puis, vous avez on a des compétences, effectivement, en France, on l'aura compris. Simplement, je vous pose cette question du temps parce qu'il y a quand même des freins, et des freins importants, pour relancer réellement et passer à l'échelle de cette filière. Il y a besoin de beaucoup d'investissements, de milliards d'investissements. Or, la Chine casse les prix et cette filière naissante, pour que les investissements arrivent, a besoin que les industries, d'être sûr que les industriels, pour que nos auditeurs comprennent bien, achètent les minéraux qu'elle va produire. Or, comme la Chine casse les prix, eh bien, les investissements ont bien du mal à arriver. Finalement, la Chine verrouille, en fait, la relance de cette filière.
Alors, tout à fait. Ça, c'est un sujet absolument fondamental. Une grande partie des raisons de l'arrêt d'un certain nombre d'activités était justement dans ce problème-là, c'est-à-dire de marché sur lequel les prix étaient écroulés et donc les industriels devaient arrêter leur production, en particulier dans le raffinage d'un certain nombre de métaux. Donc, si on veut de manière durable assurer cette diversification, il faut un environnement de régulation du marché.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des prix planchers, c'est ce que demandent les États-Unis.
Ça veut dire un certain nombre d'outils. Celui-là en est un, mais il y en a d'autres.
Dire aux entreprises, vous devrez acheter un prix minimum.
C'est une autre manière.
Et ne pas acheter les terres rares low cost chinois, c'est ça?
Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire par des régulations de prix. On peut le faire par des obligations de diversification, des obligations de localiser une partie de sa production dans certains pays, des obligations de non-concentration de la dépendance sur un seul pays. Donc il y a un portefeuille d'outils. Qui sont en cours de discussion, qui sont nécessaires pour compléter les soutiens financiers qu'on apporte d'ores et déjà, et qui sont nécessaires notamment pour que les capacités industrielles qu'on développe fonctionnent dans la durée. C'est-à-dire, on réalise des investissements, mais il faut que sur 15 ans, 20 ans, ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut de la régulation. C'est un marché
qui... Et il faut que les entreprises jouent le jeu. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre, parce que vous les réunissez, les entreprises et les filières. Vous leur avez dit il y a quelques semaines, il faut que vous désensibilisiez vos approvisionnements. Il faut vraiment que vous alliez regarder ailleurs, que vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier. Est-ce que les industriels français jouent le jeu aujourd'hui? C'est compliqué, si je ne me trompe pas.
On ne leur dit pas depuis 2 mois, on leur dit depuis plusieurs années, et pour ce qui me concerne, depuis le jour même où j'ai été nommé. Donc, on leur dit, oui, il faut diversifier vos approvisionnements, il faut connaître vos chaînes de valeur jusqu'au bout, c'est-à-dire pas simplement la première, la deuxième chaîne de sous-traitants, il faut aller tout au bout de l'analyse de vos dépendances. Et là, il y a encore du chemin à parcourir, c'est très hétérogène, certaines entreprises ont fait le travail, d'autres non. Il faut payer le prix de la sécurité. La sécurité, ça a un prix. On ne peut pas demander à avoir une diversification et payer le low cost. C'est comme une assurance. Si vous voulez assurer votre maison, vous payez une prime d'assurance. Donc, la sécurité, ça a un prix.
Mais elles le font ? Ça a bougé ?
Pardon ? Oui, ça bouge, pas suffisamment vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire de la régulation, mais ça bouge. Mmh. Et j'insiste, pour un certain nombre de métaux, ceux sur lesquels les dépendances sont les plus importantes, le coût est faible. Sur une voiture thermique, les terres rares, c'est une vingtaine d'euros. Donc, vous voyez, sur un véhicule à 20 000 ou 30 000 euros, prendre 5 ou 10 euros de plus, c'est important.
Toute dernière question, on l'entendait dans le reportage, il y a un enjeu environnemental qui est majeur. On sait que c'est des minéraux qui sont utiles pour la transition énergétique. En même temps, il y a un impact. Vous dites c'est le prix à payer aujourd'hui. On arrive à faire des mines moins impactantes. C'est quand même une grande question.
Non, un impact, tout projet, de quelque nature qu'il soit industriel, minier, de logement, d'aménagement, a un impact sur l'environnement. Donc la question, c'est réduire l'impact, c'est appliquer les normes les plus exigeantes, et c'est ce qu'on fait en France. Je veux le dire parce que on a entendu le reportage sur l'Italie. Mmh. On a une problématique à peu près comparable à l'Italie. On a des ressources, on peut les développer. On a en particulier des ressources très importantes dans le lithium. Elles sont en cours de développement. Et avec nos normes, avec les normes qui sont appliquées, avec nos procédures, ces impacts sont tout à fait maîtrisés.
Benjamin Galzo, le délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, était avec nous ce matin dans On n'arrête pas l'écho. Merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Déjà l'heure de retrouver Christian Chavagneux. On va feuilleter avec vous quelques trouvailles. Donc deux voyages ce matin, un voyage dans le temps et avant ça, un voyage à l'ouest.
Oui, tout à fait. On va aux États-Unis. Comment quelqu'un qui, à 9 mois d'une élection, est crédité de 1% des intentions de vote, devient à 34 ans le 111e maire de New York? Je parle de Zohran Mamdani, bien sûr. J'ai bien aimé ce livre qui s'appelle « La victoire de Zohran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche ». C'est écrit par l'historien Tristan Cabello et c'est publié aux éditions Textuel. On s'aperçoit que d'abord Mamdani, il sort pas de n'importe où. C'était un représentant de l'Assemblée de l'État de New York. Et là, tout de suite, on voit trois choses. Un, c'est un gars qui travaille les dossiers à fond. Deux, il est très lié à beaucoup d'associations multiethniques de terrain qu'il va beaucoup utiliser au moment de sa campagne. Et puis c'est quelqu'un qui sait déjà, dès qu'il arrive à faire quelque chose, à attirer les médias sur ses réussites. Quand on a suivi la campagne, on avait l'impression vraiment d'un happening permanent dans la rue. En fait, c'est le bouquin montre qu'il y a une super équipe de pros derrière lui qui prépare, rien n'est fait au hasard. Sa proposition économique, elle est simple. Je vais rendre du pouvoir d'achat aux New Yorkais les plus pauvres, à la classe moyenne. Comment ? Un gel des loyers, la gratuité des bus, et puis on va donner des crèches publiques pour tout le monde. Comment il va financer ça ? Il taxe les riches, donc justice sociale. Il va réduire des dépenses aussi, des contrats un petit peu opaques, des consultants qui sont payés cher et savent pas grand chose. Est-ce que ça va marcher tout ça ? Franchement, on n'en sait rien. Rendez-vous avec le prochain livre.
Et votre deuxième recommandation, Christian, c'est un livre qui s'intéresse à la France des années 30.
Oui, alors le bouquin s'appelle « Le fascisme en col blanc » par Xavier de Jarcy aux éditions Critique. Alors je vous le dis tout de suite, le bouquin est un peu épais, à mon sens il va dans trop de détails quelquefois, mais il est passionnant. Pourquoi ? Parce qu'on est proche des grands industriels français des années 20-30 et de leurs choix politiques. On se focalise sur le redressement français qui est dirigé par Ernest Mercier, c'est le patron de la Compagnie française des pétroles, et Mercier, je vous dis, son héros politique c'est Mussolini. Donc qu'est-ce qu'il veut le redressement français ? Il veut un pouvoir politique fort parce qu'il en a marre de tous ces députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour redresser la France. Redresser la France, c'est quoi ? Faire baisser les dépenses publiques, surtout pas augmenter les dépenses sociales. Et c'est une période dans laquelle les grands journaux, notamment économiques, sont contrôlés, ont été rachetés par des grands patrons. Alors quand Léon Blum arrive avec le Front Populaire, c'est la débandade totale. Une partie va rejoindre le Parti Populaire Français de Jacques Doriot, une autre même la cagoule, les violents. Tout ça, ces techniciens, on va les retrouver dans le gouvernement de Pétain, le gouvernement collaborationniste de Pétain. Le livre est intéressant pour ce qu'il nous dit sur l'histoire, mais malheureusement, je crains qu'il soit aussi intéressant parce que toute ressemblance avec la situation actuelle n'est pas fortuite.
C'était l'écho à la page. Merci Christian, bon week-end.
Merci à vous.